Reportage.
Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 4e épisode de la saga Citroën. Nous sommes toujours avec Eric Godefroy qui va nous présenter sa 4e voiture. C'est une traction de 1937. Cette voiture est innovante pour différentes raisons, vraiment tournée vers le futur.
On arrive en avril 34, 10 ans après la 5HP, et Citroën, avant de mourir, lance sur les chapeaux de roue la 7 chevaux traction. On a fait la 7, la 11 et la 15 en traction. Donc quand on parle de 15, les gens ne savent plus. Il y a eu des 15 Rosalie et il y a eu des 15 traction. La 15-6, pourquoi on l'appelait la 15-6 aussi? C'est parce que il y avait 6 cylindres. Mais on n'a jamais dit la 7-4 ou la 11-4, qui avait des 4 cylindres. L'histoire de la traction est une histoire extraordinaire parce que la traction, par rapport à la B14, elle a entre 20 et 30 ans d'avance. On ne monte plus en voiture, on est à hauteur d'homme là. On ne monte plus en voiture comme on l'a fait sur la 5 chevaux ou la B14. Nous sommes sur un système de traction avant. Donc, si on compare le progrès technologique quand est arrivée la 7 en mai 34, en mai 1934, André Citroën était encore en vie puisqu'il est mort le 2 juillet 35. Donc, il a connu cette voiture qu'il a voulu à tout prix avant, hélas, la chute de Citroën et la reprise par Michelin. Alors, on a des freins hydrauliques. Des freins hydrauliques, ça veut dire les freins d'aujourd'hui, c'est-à-dire des freins avec un liquide, qui alimente les quatre roues, je dis bien les quatre roues, avec une pression sur la pédale, et on envoie donc un liquide qui fait bouger les cylindres de freins, là, de roues, et qui permet de bloquer les tambours. Donc ça, c'est une révolution, puisqu'on a un freinage sur les quatre roues, ce qui n'était pas toujours le cas, notamment sur la 5HP, on a
c'est
deux roues.
C'est du câble, déjà.
On n'est plus en câble, mais même à l'époque, on avait parfois des freins sur les roues arrière ou les roues avant. Donc là, on quitte les freins à câble, on est sur des freins hydrauliques. On ne monte plus en voiture, on est à hauteur. On n'est plus sur un châssis, on est sur une monocoque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une monocoque? C'est toutes les voitures d'aujourd'hui sont des monocoques. Ce qui veut dire qu'on a un aérodynamisme beaucoup plus fort, ce qui veut dire une consommation, on le verra après, mais d'essence beaucoup moins forte, puisqu'on a un coefficient de pénétration dans l'air qui est très très bon. La traction est sortie de mai 34. Elle a eu beaucoup de problèmes, comme beaucoup de Citroën, quand on est en avance sur son temps. Une voiture qui n'était pas totalement au point, qui n'était pas totalement fiabilisée, qui avait un avenir devant elle, une trésorerie, pardon, pratiquement plus qu'à sec, puisque des dettes énormément. Et donc, on n'a pas eu le temps de mettre au point la traction. Donc, Citroën a dit, ça y est, en illustration, toute la publicité, le 30 avril 34, la voiture sera à vendre. Les portes s'ouvraient sur la route, les cardans cassés, donc on est en traction avant, donc avec un système de cardans. La stabilité n'était pas celle voulue, la boîte de vitesse, il y avait des problèmes. Donc une voiture qui n'était pas au point, qui allait l'être. Donc forcément, les concurrents ont fait des gorges chaudes sur Citroën, qui était déjà exsangue financièrement. Cette personne a quand même mis la France sur quatre roues, a pris des risques qu'on dirait aujourd'hui complètement fou, mais il faut parfois de la folie pour arriver à des voitures qui ont 25 ans ou 30 ans d'avance, qui seront au point quand Michelin reprendra l'affaire. En 34, Citroën est évincé de son affaire. C'est Édouard Michelin, qui était un de ses principaux fournisseurs et créanciers, qui a repris en main l'affaire Citroën, et il a nommé un de ses dauphins, Pierre-Jules Boulanger. Pierre-Jules Boulanger, un type extraordinaire, a repris le quai de Javel, a remis la traction dans les normes qu'il fallait faire. Vous aviez le choix dans la couleur, c'est noir ou noir, c'est-à-dire que déjà on fait des économies de budget, parce qu'on avait des teintes avant-guerre, des gris perles, des roses, on avait tout ce qu'on voulait, quoi, comme sur les Rosalie, et à un moment donné, il faut arrêter. Ce qui n'a pas empêché que tout le monde en a voulu, à partir de 36, la voiture Au niveau de la crémaillère, il y a une crémaillère qui est montée, c'est-à-dire que la direction est beaucoup plus souple. Les cardans, on a solutionné le problème des cardans. Les problèmes d'ouverture de porte, ça a été solutionné. La voiture est totalement fiable à partir de 36. On a aussi les gens qui, à l'époque, ont vu cette voiture en disant « Ben oui, mais moi, je suis grand, je ne rentrerai pas dedans. » Citroën a fait venir un Polonais ou un Roumain, je ne sais plus, qui faisait 2,012 m ou 2,20 m. Pas loin de 2,20 m, qui s'est assis dans une limousine ou une familiale de 36, et on le voit rentrer dans la voiture. Donc, ce qui veut dire que tous les détracteurs concurrents de Citroën en disant bah ouais, mais il n'y a pas de place, on a prouvé, en mettant quelqu'un qui fait 2,12 m ou 2,20 m, qu'il y avait certainement autant de place.
Plus de 100 à l'heure, décubuteur, carburateur inversé, la monocoque. Ouvre une époque, Monsieur Citroën a gagné. Voici les tractions avant, et avec leur moteur flottant. Révolution dans la technique aérodynamique. Regarde maman, les beaux cardans homocinétiques.
Ce modèle-là est un modèle rare, enfin c'est un avant-guerre bien sûr. C'est une 7C, donc c'est une 9 chevaux fiscaux. Elle est d'octobre 1937. Je l'ai achetée première main en 73 à Lille. Et je l'ai restaurée en 73, donc la peinture a 47 ans. C'est un gris perle L noir, référence Citroën de 1935. Quand je l'ai restaurée, j'ai voulu garder son tableau bord d'origine. Je ne l'ai pas repeint. Dès qu'on peut garder l'origine, il y a les pressions de gonflage de 1937, il y a tout son tableau de bord. On parlait de tableau de bord mieux centré. À partir de 28, on verra, il sera au milieu. Et à partir de la traction, alors en 34, il sera encore au milieu comme la B14. Et à partir de 35,5, 36, le tableau de bord sera vu du volant. Avant-guerre, on n'avait pas de clé de contact.
D'accord.
On appuyait sur un truc et on partait avec. À partir de la traction de 34, on a la clé. Alors là, j'ai la clé d'origine qui est usée, avec son double chevron, qui a 81 ans, j'y tiens, c'est sa clé d'origine. C'est très drôle. Les premières tractions, comme beaucoup de concurrents également, avaient une roue de secours, bien sûr, à l'arrière, mais l'ouverture du coffre n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ouverture. Le coffre se faisait par les portes arrière, on levait la banquette et on rentrait les valises. Alors,
pas très pratique.
L'idée hypocrite quand même, très hypocrite de Citroën quand même, c'est de se dire grâce à ça on n'est pas volé, on ne vous vole pas vos affaires. Bon, ça c'est ça n'a pas duré longtemps. On a fait une ouverture de manière à ce que l'accessibilité, là on va parler de coffre, vraiment. Et là on a une ouverture arrière, la roue arrière s'enlève, enfin
se bascule en avant.
Se bascule. On a ici, dans la roue de secours, un jerrycan qui est rond, qui est complètement rond, qui épouse la forme de la roue de secours, qui est adaptée aux voitures d'avant juillet 52.
C'est un petit réservoir d'appoint.
Voilà, c'est un petit 5 litres d'appoint. Dans ce coffre, on met des valises de l'époque, qui ne sont pas les valises de maintenant. J'ai des valises là d'époque, ce sont des valises qui sont souvent longues, pas très profondes, pas très hautes, on en met deux. On est dans un autre concept. Et s'il fallait, on mettait une galerie sur le toit.
On pouvait, à l'époque ?
Ah, il y avait aussi des galeries, des accessoires, hein, pas par Citroën, mais des accessoires. Donc le cric, tout le matériel est dedans, les petits outillages, le gonfleur, etc. que j'ai mis. Là, on parle de coffre. On n'a plus de mal. On n'est plus sur un moteur latéral. On est sur un moteur moderne, culbuté. On est sur un 128 cm3. La 11, ça sera un 1911 cm3. On a déjà aussi une pompe à essence. J'appelle l'essence. Donc, on a un réservoir à l'arrière. Je pompe l'essence qui va arriver directement au carburateur. Alors, on est sur une mécanique où là, ce qui est intéressant, on est sur des cylindres blocs.
Alors, moteur flottant.
Voilà, je vais vous parler du moteur flottant. Alors, à partir de la traction, on ne va plus parler de moteur, la traction, hein, la roseillée sera encore différente. Sur un châssis, on va parler d'un moteur sur une monocoque. n'y a pas de châssis. Et nous avons des jambonneaux. Ce sont les deux bras sous le capot qui vont maintenir la bobine, le kit de frein, le tour de la batterie. Les jambonneaux vont permettre de positionner le moteur au milieu de ces jambonneaux qui, eux, vont avoir des broches à la fin du jambonneau pour pouvoir prendre tout le train avant, qui est une traction avant, qui n'a rien à voir avec la transmission arrière. Donc ça n'a plus rien à voir avec le concept de l'avant-guerre. Là, on est dans la voiture du futur. Je parle, on est en 34, hein, la voiture du futur. C'est toutes les voitures qu'on va... Même Renault a fait des tractions arrière jusqu'à... Regarde la R8 et tout, 66, 68. Là, il y a vraiment un concept d'avant-garde. Et ça, c'est du Citroën. Alors, on a des capots à voler. Alors, c'est très intéressant, les volets de capot. Les volets de capot sont typiques de l'avant-guerre. Les capots à voler sont arrivés dans les années, qu'ils soient chez Renault ou Peugeot ou Citroën, hein, 30 ou 31, voire 32. C'était la mode des volets d'ouverture. C'est pour refroidir le moteur. Avant, nous avions des ouïes, comme il y a sur la B14, des ouïes de capot. Et figure-toi, c'est marrant. Il y a toute une époque, que ce soit les Peugeot, les Renault, les Samsung, on s'en fout, on montait à un moment donné, c'était une mode, les volets de capot. On pouvait faire chauffer le moteur, c'est-à-dire l'intérêt quand même du capot fermé. Regarde.
Ah ouais.
Voilà, mon volet est fermé. Quel est l'intérêt? Je suis à froid dans mon garage. Je fais chauffer mon moteur, je le fais tourner. Capot fermé. Le moteur va monter en température tout de suite. Il fait très froid dehors, il fait moins 5 ou moins 8. Ça ne sert à rien d'ouvrir le capot de volet pour refroidir ton moteur qui, lui, veut troller à 80 s'il fait très froid. Il fait chaud ou il fait une température normale, j'ouvre. Ce que tu ne pouvais pas faire avec des ouïes. Jusque-là, ça paraît, c'est une mode, hein, parce que tout le monde l'a fait. Arrive 38, ouais, 38, la 15-6, un capot à ouïes. Alors qu'elle est d'avant-guerre et que toutes les autres tractions 7 ou 11 ont des capots à voler. Et comme par hasard, après-guerre, à partir de 46, parce qu'il restait des stocks hein, de capots à voler, les 11 et les 15 ont eu des capots à ouïes. Donc c'est rigolo. On s'est aperçu quand même qu'avec ces mécaniques-là, qui étaient beaucoup plus fiables, et que finalement, le capot à ouïes était aussi pratique à fabriquer, plus simple, d'accord. Et ça avait un fonctionnement parce que les gens ne savaient plus s'il fallait ouvrir, pas fermer, tout ça. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il fallait être un petit peu mécano, soit tu avais un chauffeur, ou il fallait, quand on roulait dans les années 20, il fallait quand même aimer un peu la mécanique. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, on va la faire démarrer. Tout est là. On a la jauge d'essence. On a l'ampère, mètre, c'est-à-dire charge ou décharge. On a le compteur kilométrique et bien sûr le compteur. Que l'on peut mettre à la main, comme ça, sur la B14, la sortie de boîte de vitesse est au volant. Comme les voitures des années 60. On est en 34. Quand même extraordinaire. On a donc un starter, un démarreur et une clé de contact. Je mets la clé de contact. On va tirer sur le starter. Et on va... Alors, il faudra... Alors, le bruit n'est pas du tout le même. Alors, je vais progressivement. J'ai enlevé le starter. Alors, ma charge est très bonne. Mon réservoir, je suis à 44 litres. Sans starter. Écoutez-moi ça. Et alors, ce qui est amusant de voir, ce que l'on ne voit pas sur les voitures d'avant-guerre, c'est que là, je vois ma cloche en verre de pompe à essence. Et alors là, on voit que ça circule. Allez, l'essence, là, je veux dire, c'est vraiment à demi-pression. Hein. Alors, la cloche en verre permet de voir forcément que l'essence arrive bien au carburateur en accélérant. Ça n'a rien à voir, le bruit mécanique n'est plus tout de même.
C'est beaucoup plus fluide.
C'est une voiture moderne, tu te croirais dans les années 60. C'est une révolution cette voiture. Le moteur, je suis au troisième. Le moteur doit avoir 8 ou 10 000 km. J'ai refait il y a une vingtaine d'années, refait à neuf. Par contre, ce que j'ai gardé d'origine volontairement, ce qui fait son intérêt, l'intérieur est de 1937, le pavillon est de 1937, le tableau de bord n'a pas été retouché, je ne l'ai pas repeint volontairement pour garder son odeur, le volant est de 1937, légèrement fendu mais fonctionnant bien. Essayez de garder quand vous pouvez l'authenticité de la voiture. Quand un tableau de bord est un tout petit peu usé mais qu'il est en bon état, ne le repeignez pas. Quand vous avez un intérieur qui sent le bon, l'avant-guerre, donc dès que vous pouvez, gardez l'authenticité de la voiture. Parce que la restauration, oui, de la voiture, la restauration à outrance d'une voiture qui ne méritait qu'une peinture ou une réfection mécanique, gardez l'intérieur. Cette voiture, je l'achète de première main, je suis le deuxième propriétaire, elle a 81 ans.
31 juillet 1957, date importante pour les usines Citroën. Les vétérans des chaînes de Javel entourent d'un soin tout particulier la dernière 11 chevaux traction avant classique dont on fait aujourd'hui la sortie. Ils l'ont aussi décoré d'un bouquet tricolore pour célébrer gaiement cette étape de leur carrière. Et le plus âgé d'entre eux a eu l'honneur de frapper lui-même le dernier numéro de la série. Son heureux propriétaire, qui dut l'acquérir de haute lutte contre des centaines d'amateurs passionnés, reçoit les félicitations d'un directeur qui, en 1934, assistait au lancement commercial du modèle.
Après le trèfle, la Rosalie, la 11, c'est le dernier cri. Comme elle est belle, elle a des ailes, c'est l'attraction universelle.
Nous voilà arrivés à la fin de ce reportage en espérant qu'il vous ait plu. Il ne me reste qu'à remercier chaleureusement Eric Godefroy pour sa patience, sa passion, sans qui ces 4 reportages n'auraient pas été possibles. Si vous voulez avoir des informations complémentaires sur l'association dont Eric Godefroy est le président Les Vieux du Volant, vous pouvez aller faire un tour sur leur site internet www.lesvieuxduvolant.fr. Et il se pourrait bien que nous retrouvions Eric dans de prochains reportages sur des voitures d'avant-guerre. À très bientôt.
Vous aimez cette production ? Donnez votre avis sur dvrgv.org.